Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Les bénédictions spirituelles acquises en Christ par le chrétien né de nouveau. Ça, c'est la deuxième partie. Parce que là, dans l'enseignement sur les implications de vie nouvelle en Christ, j'ai passé mon temps à expliquer ce que c'était que la repentance et la justification. On a vu ça pendant un mois entier. Hein, vous rappelez-vous? On a vu la repentance et la justification pendant un mois. Et maintenant, on aborde la deuxième partie, ou la deuxième sous-partie de l'enseignement. On va maintenant attaquer les bénédictions spirituelles acquises en Christ par le chrétien né de nouveau. Quand on est en Christ, qu'est-ce qu'on acquiert comme bénédiction spirituelle? Alors, on verra aujourd'hui, la première partie, ce sera les bénédictions acquises avant notre naissance. Quelqu'un peut dire, mais est-ce que c'est possible? Oui. Avant que nous naissions physiquement, avant que vous naissiez physiquement, c'est-à-dire, il y a des bénédictions que Dieu a acquises pour vous avant votre naissance. Nous verrons ce matin et dimanche prochain, si Dieu le permet, que vous avez maintenant, nous verrons les bénédictions acquises à partir de notre naissance dans le temps présent. Et ensuite, on verra plus tard le dimanche 4 janvier, le dimanche 11 janvier, nous verrons un peu ce que c'est être fils de Dieu. Le fils, les petits-enfants, les jeunes gens, les jeunes hommes. On verra plus tard ce qu'on appelle le combat entre la loi et la foi. La loi et la foi, la loi et la grâce. On verra tout cela. Et puis, on continuera jusqu'à ce que le thème soit épuisé. Voilà un peu le programme pour vraiment une partie de l'année 2009. Alors, ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles dans Éphésiens chapitre 1. Déjà, vous avez une indication, même si c'est pas la même chose, il y a une indication dans les passages. On va prendre Éphésiens chapitre 1. Le livre d'Éphésiens va beaucoup nous aider à voler dans cet enseignement sur les bénédictions spirituelles acquises en Christ par le chrétien né de nouveau. J'insiste sur le thème de chrétien né de nouveau. Je parle pas de croyant, je parle de quelqu'un qui est né vraiment de nouveau. Éphésiens chapitre 1. On va lire tout le chapitre 1 en une très grande partie parce qu'il est assez clair, très puissant. En une bonne partie en tout cas, au moins du verset 1 au verset 14. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et aux fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je reprends ce passage. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon sa richesse, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, à savoir réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la volonté, de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit
qui avait été repromis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen.
Le livre d'Éphésiens, considéré par les théologiens comme un livre fondamental, l'un des livres les plus importants qui est pour l'écrit. Il y a le livre de Romains et le livre d'Éphésiens. Bien sûr, il y a d'autres qui sont aussi importants, mais les Romains et Éphésiens sont waouh. Quand vous êtes Romains, surtout le chapitre, même chapitre 3 déjà, 4, quand il parle d'Abraham avec en rapport avec la foi, chapitre 5, quand il se met à parler de la justification, chapitre 6, chapitre 7, où on parlera de chapitre 7, le combat dont Paul parlait. Il dit par exemple que je fais pas ce que je veux, je fais ce que je veux pas, etc. De qui s'agit? Quel est le combat du chrétien? Et chapitre 8 qui nous dit simplement que nous sommes libérés de toute forme de condamnation en Christ. C'est un livre fondamental, tout comme Éphésiens aussi. Alors vous voyez que, on voit à peu près 3 temps ici. Il dit que Dieu soit béni parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, quelles sont ces bénédictions dont l'apôtre Paul est en train de parler? On les voit progressivement. La première bénédiction qu'il parle au chapitre 4, verset 4, c'est quoi? Il dit, en Christ, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Alors, je vais arrêter là. Il dit que Dieu nous a bénis avant la fondation du monde. Et comme personne parmi nous n'est né avant la fondation du monde, ça veut dire que nous sommes déjà bénis avant que nous venions sur la terre. Quand je vous dis, quelqu'un m'a dit, mais parce qu'il est en train de faire une hérésie. Mais en tout cas, c'est le moment qu'il existe écrit dans la Bible. Il dit, avant la fondation du monde, Dieu nous a déjà quoi? Bénis. Ouais, connaître la parole de Dieu dans sa vérité et la proclamer, c'est différent. Ça vous donne son sort de sécurité. Ouais, Dieu qui nous a créés ne peut pas nous créer comme ça, sans but. En nous livrant au bon désir du diable qui fait de nous ce qu'il veut, qui peut nous maudire quand il veut, qui peut nous tuer comme quand il veut. Non. Vous qui êtes assis là, et moi qui suis devant, la Bible déclare que avant la fondation du monde, avant que je ne naisse, avant que vous ne naissiez quelque part dans un village ou dans une sous-préfecture ou dans un hôpital quelconque, Dieu dit qu'il vous a déjà béni. Il faut dire amen. Ça doit susciter l'amen pour voir que ouais, notre Dieu est un Dieu qui prévoit. Pourquoi il nous bénit avant que nous naissions? Si on ne comprend pas très bien cette figure de style, je peux vous l'expliquer au niveau humain simple. Lorsqu'une femme sont mariées, ils sont mariés légalement. Si les deux travaillent, qu'ils ont une bonne situation, et si par la grâce de Dieu, la femme tombe enceinte, comment on prépare la venue de l'enfant? Avant que la femme ne vienne, il prépare, c'est ça non? Il prépare le trousseau, il prépare ceci, il prépare cela. Alors si le père et la mère sont des personnes qui ne sont pas très responsables, ils ne vont rien prévoir. Et puis la nuit vers 3 heures du matin, il y a un problème. Comment ils font? Ouais, il peut même traîner la mort de l'enfant. Donc avant que la femme ne naisse, qu'il vienne au monde, le père et la mère font quoi? Prépare leur avenir. Et même ceux qui sont un peu plus riches, ils prévoient déjà leur héritage. Mais je me trompe. Il dit, mon enfant, son héritage. Et si les gens travaillent dur, il dit, ok, quand je vais marier, j'aurai comme un enfant, j'aurai 3 enfants, 4 enfants. Et s'il me fait grâce d'être riche, chaque enfant aura une villa, une maison, un immeuble, ceci, cela. Il prévoit ça. Regardez-nous les hommes qui sommes imparfaits. Nous savons préparer la venue, l'arrivée de nos enfants. Et nous, ceux qu'on est riches, on prévoit des choses même riches pour eux. Et quand ils viennent dans les bonnes conditions. En tout cas, nous souhaitons que les conditions dans lesquelles nos enfants grandissent soient différentes des conditions dans lesquelles on a grandi. La dernière fois, je disais à un ami que moi j'ai grandi, une bonne patate, quand il pouvait s'y coger, c'est qu'elle là-bas mange une fois par jour à 16h30, entre 16h et 17h. C'est tout. Vous attendez que le lendemain, vous mangez Pengodjo, café baoulé, tout ça, je connais ça. C'est pourquoi j'ai grandi dans ce milieu, je sais que c'est la galère. Et ma souhait, c'est que mes enfants ne soient pas là dans la même situation que moi. De toute façon, par la grâce de Dieu, ils ne sont plus dans la même situation que moi. Ils sont un peu plus évolués que moi. Ils ont un peu plus d'argent seulement parce que le père sont un peu plus par rapport à mon père, etc. Donc, c'est des hommes humains pour montrer que nous, les hommes, à chaque fois que vous serez dans une situation difficile, par rapport à votre statut, par rapport à qui il y a devant Dieu, commencez à penser à ce que vous pensez même de vous-même et de ce que vous pensez de vos enfants, de comment, enfin si vous en avez, comment vous voulez qu'ils soient. Et la même manière, vous verrez que la même manière, Dieu veut que nous soyons ainsi. Alors, si nous, hommes, nous pensons à ça, Dieu davantage pense à cela. Donc, avant la fondation du monde, Dieu nous a bénis. Maintenant, l'apôtre Paul explique de quelle bénédiction il s'agit. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Ici, le thème qui emploie, c'est le thème élection. Bon, ce n'est pas l'élection démocratique. C'est-à-dire, et je vais, on sera attentif parce que je touche un point doctrinal, mais je serai très équilibré. Avant que vous ne choisissiez de marcher avec le Seigneur, Dieu déjà vous avait choisi. Dieu vous avait déjà élu. Dieu a porté son choix sur vous. Puisque l'élection, c'est porter le choix sur quelqu'un. Donc, avant votre naissance, Dieu a porté son choix sur vous. La Bible me le dit même qu'avant que je naisse dans Galates, Dieu m'avait choisi. C'est quelque chose de délicat, c'est vrai. Et je fais la limite, mais vous allez voir que quand nous comprenons ce que c'est, nous sommes vraiment un peu en sécurité. Dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul essaie de l'expliquer. Que Dieu nous a choisi avant la fondation du monde. Il nous a élus. L'apôtre a son choix sur nous. C'est-à-dire qu'il me connaissait. Il te connaissait ton nom, le nom que tes parents te donneraient. Et Dieu sait et il savait où vous allez naître. De quelle famille. Vous êtes noir. Vous allez avoir 1m, moi j'ai 1m73. Vous allez avoir 1m73, 1m75, 90. Vous allez avoir tel. Dieu savait ça déjà. Bien sûr, ça ne signifie pas que l'homme n'a pas de responsabilité. Je suis en train de dire que Dieu savait les choses. Dieu sait parfaitement les nombres de jours qui nous sont destinés. Il le sait parfaitement. Mais on verra ça plus tard parce qu'il peut avoir une erreur humaine. Il y a des choses que Dieu laisse tomber, que Dieu tolère plutôt. Mais je veux dire que dans son plan initial, rappelez-vous, si on a un problème par rapport à ça, rappelez-vous que dans le plan initial de Dieu avec Adam et Ève, il n'a pas prévu que Adam et Ève soient chassés du jardin. Ce n'était pas prévu. Non, dans ce cas, c'est pas ce que Dieu avait voulu. Donc, en clair, il y a des choses que Dieu, dans sa volonté parfaite, Dieu, dans son omniscience parfaite, avait prévu pour nous. Quand nous sommes en Christ et que nous marchons conforme à la parole de Christ, cette destinée prophétique s'accomplit parfaitement. Est-ce qu'on peut dire Amen? La preuve du cas d'Abraham, Dieu n'a pas prévu qu'Abraham allait avoir un enfant avec Agar. Ce n'était pas ce qui était prévu. Mais comme Dieu n'agit pas contre notre volonté, il l'a laissé faire. Mais après, Abraham a été ramené sur le droit chemin. Mais avec les conséquences ou bien les effets collatéraux que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le plan de Dieu apparemment s'est accompli à travers Isaac. Il n'a pas été parfait parce que justement, Abraham, à un moment donné, s'est bifurqué à gauche. Mais il aurait été parfait si Abraham était resté fidèle à sa femme et alors ça serait accompli. Donc, en clair, Dieu sait d'avance ce qu'il a prévu pour nous. Mais attention, l'homme est capable de quitter le plan de Dieu. Parce que Dieu ne s'impose pas notre volonté. On peut quitter son plan et faire ce qu'on veut parce que Dieu nous a créé libre. Et si on est saisi par la repentance, par le remords, comme le fils prodigue, on peut revenir sur le droit chemin. Ça, c'est possible. Alors, pour comprendre l'élection, le choix de Dieu, voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Je suis sûr que le temps ne suffira pas. Je suis parce que c'est très dense et c'est minutieux. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. On prend aussi Tite chapitre 1, verset 1. On prend deux versets en même temps, sinon trois. On prend 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4, Tite 1, 1, et puis 1 Pierre 1, 2. Je lis maintenant. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Donc il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. J'adore tout ça, le sait. Ils avaient été élus de Dieu. Dieu les a élus. Dieu nous a élus. Nous a choisis. Dans Tite 1.1, il revient sur la même chose. Tite, c'est après Timothée. Tite 1.1. Il dit, Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété. Il dit, pour la foi des élus. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une foi pour les élus, pour ceux que Dieu a choisis.
Dans 1 Pierre 1, 2, c'est suivi chronologiquement. Dans 1 Pierre 1, 2, il dit la même chose. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, élus sont la préscience de Dieu le Père. Il dit, élus selon la préscience de Dieu. La préscience, c'est celui qui sait avant qu'il y ait une connaissance, avant la science, qui sait les choses d'avance. Donc, élus avant, élus selon la préscience de Dieu. Je m'arrête un instant pour expliquer. Quelqu'un me dit, mais tiens, je suis en train de parler de la prédestination, que dans tous les cas, je peux faire ce que je veux, mener ma vie comme je veux, Dieu m'a choisi, et puis c'est sûr que je vais au ciel. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Vous voyez, l'élection de Dieu ou la préscience de Dieu, c'est par rapport à Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu ne serait pas Dieu s'il ne savait pas des choses d'avance. Il est Dieu justement parce qu'il sait les choses d'avance. Il sait ceux qui vont choisir la voie de son fils. Il le sait parfaitement. Maintenant, est-ce que Dieu agit sur leur volonté? Je dis non. C'est-à-dire que est-ce que Dieu pousse ta volonté, la manipule pour que dans tous les cas, tu retombes sur tes deux pieds et que tu le choisisses comme Seigneur Sauveur? Non. C'est-à-dire, dans sa préscience, il crée les hommes à son image. Il sait ceux qui d'avance vont lui appartenir. Parce que si on conteste ça, on me dit voilà simplement que Dieu n'est pas Dieu. Il ne sait pas tout d'avance. Il sait tout d'avance. Je me répète encore suffisamment. Même les malheurs qui nous sont arrivés, mais il le sait, il le savait d'avance. Est-ce que Dieu peut changer de décision à un moment donné de son histoire? Oui. Des fois, Dieu change de décision. Rappelez-vous, Dieu décide de bénir quelqu'un, de l'élever, et puis à cause de son comportement, Dieu change de décision. S'il n'est pas très sûr, voyez la vie de Saül. C'est Dieu qui avait choisi Saül, comme celui qui devait être le roi d'Israël. Et Saül n'avait pas de problème. Saül était docile, respectueux, obéissant à son père. Parce que c'est en partant chercher les âmes de son père que Samuel a rencontré. Mais après, Saül s'est corrompu. Quand il a eu le pouvoir, il n'a pas cherché à écouter sa voix, à écouter la voix de Dieu, mais à écouter sa propre voix. Alors, Dieu l'a disqualifié. Donc, comprenez qu'il est possible que quelqu'un qui était choisi de Dieu, par sa vie, je lui dis, quitte le chemin lui-même. Il abandonne plus que Dieu ne va manipuler notre volonté. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Mais il sait qu'on va la couler en lui et il sait qu'on va marcher selon sa volonté. Vous voyez, l'élection de Dieu est une élection qui est comprise dans l'attitude ou la position de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est le Dieu omniscient. Il sait des choses d'avance. Mais pour nous les hommes limités, nous ne savons pas forcément, quand on voit un enfant, qu'il est l'élu de Dieu ou pas. Tu ne le sais pas puisque tu es un homme. Mais Dieu lui le sait. Donc la connaissance de Dieu ou l'élection, c'est par rapport à Dieu. Mais nous les hommes ne le savons pas. Je vais dire, c'est quand même pour arriver demain. Donc dans ce cas, nous sommes dans l'incertitude. C'est pourquoi on a besoin de compter sur Dieu pour notre vie quotidienne. Parce que si de toute façon, moi je suis l'élu de Dieu et que je peux vivre comme je veux, parce que dans tous les cas, Dieu m'a dit élu et que je mène ma vie comme je veux, je me trompe. Parce que le comportement que j'adopte, comment on dit ça, révèle que je suis un élu de Dieu. Donc, quelqu'un qui est élu de Dieu a le comportement de l'élu de Dieu. C'est-à-dire que celui qui est élu de Dieu marchera, parlera, se comportera comme pour confirmer qu'effectivement, il est l'élu de Dieu. Mais si ce comportement est tout à fait scandaleuse, par une vie qui n'est pas la gloire de Dieu, par là, il va confirmer qu'il n'est pas l'élu de Dieu, puisque son comportement ne traduit pas la nature ou ne révèle pas effectivement sa conformité avec la parole du Seigneur. Est-ce que c'est que j'ai clair? Par notre comportement, nous confirmons qu'on est vraiment le choix de Dieu. Par notre comportement. Parce que si je ne fais pas la précision, quelqu'un peut dire, ah, le pasteur Gadi dit que Dieu m'a élu. Que je ne peux plus aller, je ne peux plus, c'est fini, c'est terminé. Alors,
je peux me comporter comme un Django, faire ce que je veux. Mais dans tous les cas, Dieu m'a élu, je m'en vais au ciel. Je n'ai pas dit ça, comme on parle à Bidjan, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Dieu nous connaît avant notre naissance. Il sait ceux qui vont lui appartenir. Il les connaît par excellence, il les connaît déjà. Et ceux-là ont le comportement qui est conforme à l'appel de Dieu. Mais maintenant, ceux qui viennent à l'église, qui disent qu'ils sont de Dieu et qui vivent en désordre, ou par leur vie des autres, ils confirment qu'ils ne sont pas de Dieu. Ok, la parenthèse étant faite, je pense qu'on est même sur la même longueur d'onde. C'est pourquoi tant que chrétien, on ne peut pas vivre comme on veut, parce qu'on dit de toute façon on est sauvé, une fois pour toutes, on a la sécurité, je fais ce que je veux, gloire à Dieu. Non, si je le fais, je montre que je ne suis pas de Dieu. Parce que si tu es de Dieu, il allait marcher et manifester, n'oublie pas, manifester le fruit de l'esprit. Mais n'oublie pas ceci, ne vis pas du fruit de l'esprit, qui témoigne que l'esprit de Christ habite en nous. Et comme l'esprit de Dieu habite en nous, nous marchons conformément à sa parole et nous révélons le fruit de l'esprit qui atteste qu'effectivement, l'esprit de Dieu habite en nous, qu'on appartient au Seigneur. Est-ce que ce que Dieu est clair maintenant? Ok. La parenthèse étant faite, je peux continuer. Ouais, l'élection de Dieu est un choix volontaire. C'est le choix volontaire du Père. Et cette élection ne résulte pas, ne dépend pas de notre qualité de vie, a priori. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire, quand Dieu me choisit, quand Dieu te choisit, il nous a choisi d'abord selon sa miséricorde. Ce n'est pas parce qu'on le mérite. Vous voyez, pour certains d'entre nous, avant d'être chrétiens, on était vraiment des gens dans le monde, appelés dans le monde. Donc, vous voyez que Dieu ne nous a pas choisi parce qu'on avait une bonne vie, parce qu'on était pur, on était saint, on était gentil. Dieu nous a choisi par miséricorde parce qu'il savait qu'en nous choisissant, en nous adressant la parole, on allait accepter sa parole. Parce que la parole est adressée à tout le monde. Hein? Ouais, la parole est adressée à tout le monde. Tout le monde entend la parole. Mais ils sont combien à accepter la parole? Ils ne sont pas nombreux. Donc, si Dieu me choisit, il s'adresse à moi par sa parole. Ce n'est pas parce que j'ai des qualités personnelles que Dieu m'adresse sa parole. C'est parce que de manière volontaire et par miséricorde, il m'adresse la parole parce qu'il sait que, à m'adresser la parole, je vais choisir de marcher avec lui. Nous avons ça dans Romains chapitre 9, verset 9 à 16. Relis attentivement. Romains chapitre 9, verset 9 à 16. Romains chapitre 9, verset 9 à 16. Je vais m'être intéressant vers la fin, je vais demander qu'on pose des questions, parce que je vais être sûr qu'on a compris. On posera des questions. Romains chapitre 9, verset 9 à 16. Je lis. Et voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Bien plus. Il en fut ainsi de Rebecca, selon de Rebecca qui conçut seulement Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection, qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. Alors, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Verset 14. Que dirons-nous donc? N'y a-t-il en Dieu de l'injustice? Cette non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Gloire à Dieu. J'ai expliqué. Tout à l'heure, j'ai dit que le choix de Dieu n'est pas un choix injuste, un choix volontaire. C'est un choix fondé sur la miséricorde. Et non pas sur nos mérites. On ne s'est pas devenu chrétien, né de nouveau parce qu'on était méritant, on était pur, on était saint. On est devenu par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les gens, parce que des gens qui sont pires, je le dis simplement parce que des fois, quand on est devenu chrétien, on est trop rigoureux. On dit, mais comment pas comme ça même? Elle me dit, c'est un païen, je ne salue pas, c'est vrai que, bon, on doit comprendre que cette personne qu'on voit aujourd'hui, qui est une personne qui mène une mauvaise vie, qui est mal habillée, des cheveux bizarres, des boucles d'oreilles, toutes les gens qui portent des boucles d'oreilles, vraiment, je ne sais pas comment ils sont à l'aise, mais franchement, ils ne supportent pas ça. Mais je dois comprendre que Dieu peut les transformer. Amen. Amen. Imaginez un peu, je me demande comment, je m'excuse, comment on devient homosexuel? Comment un homme va aller avec un homme? Comment ils vont faire même? Je ne comprends pas, parce que je m'assure, puis je ne comprends pas. Et puis je dis, mais si c'est pas le diable, je m'excuse vraiment, si c'est pas le diable qui vient retourner vos pensées, il ne sait pas comment on peut devenir homosexuel. Ou comment on peut devenir lesbien. Comment une femme va aller avec une femme? Mais je m'assure, je ne comprends pas. Comment c'est possible même? Vous voyez à quel niveau le péché peut conduire les hommes normaux à avoir des pensées renversées. Au point qu'à l'ONU, un texte a été soumis pour décriminaliser l'homosexualité. Heureusement qu'à côté, on n'a pas signé ce papier-là. Heureusement, les États-Unis ont dit non à ça. Bref, mais vous voyez, le péché peut pousser les hommes à aller très loin. Mais est-ce que vous savez que parmi ces gens-là, Dieu choisit des élus? Alléluia. Quand j'ai appris que le chanteur américain, l'un des plus grands orateurs, Donnie McLaughlin, qui a chanté Saint, Holy, c'est la chanson que Constance a reprise, c'est un homosexuel. Il dit, mais tiens, Dieu est fort, il peut libérer quelqu'un des griffes de l'homosexualité et faire de lui un adorateur puissant. Vous dites amen. Mais c'est le choix de Dieu, ouais, que quand Dieu te choisit, ce n'est pas que tu es saint. Ce n'est pas que tu es quelqu'un de plus impédé. Waouh! Dieu le prend, il brise les chaînes. L'esprit qui était renversé, on a vu ça dimanche dernier, l'intelligence obscurcie. L'intelligence est libérée de l'obscurité et la personne retrouve et se dit, mais waouh, je faisais quoi comme ça? Elle est libérée, elle vous dit amen. Mais que donc c'est la grâce de Dieu qui vient vers nous. Donc c'est le choix de Dieu. Maintenant, quand on prend l'exemple des fils d'Isaac, pendant des années, Isaac avait prié Dieu. Je crois qu'ils ont prié pendant 20 ans, ou 20 ans, 20 ans, 25 ans. Ils n'avaient pas d'enfant, comme le père Abraham, Isaac. Et puis, quand la promesse a été accordée, Dieu a dit clairement à Rebecca et à Isaac que ta femme va avoir deux enfants, ils seront des jumeaux, et que l'aîné va être soumis au deuxième. Donc, et que Jacob allait dominer le premier. Dieu l'avait déjà dit. Rappelez-vous, dans ce qu'on a lu ici, on m'a dit enseigné ici une fois sur la loi de la semence et la moisson. Comment Esaü a vendu son droit d'aînesse? Il a vendu son droit d'aînesse parce que déjà le choix de Dieu s'était porté sur qui? C'était porté sur Jacob. Et Jacob a récupéré le droit d'aînesse. Et plus tard, il a récupéré la bénédiction de son père Isaac. Et c'est lui qui, n'est-ce pas, a eu acquis les grandes richesses. Et c'est lui qui est devenu après Israël. Et qui a mis au monde les 12 tribus d'Israël qui ont dominé le monde et qui sont jusqu'à présent aujourd'hui avec son fils, notamment Joseph, qui a régné en Égypte. Voilà comment se peut le choix de Dieu. Il le fait volontairement. Et Dieu dit que cela ne dépend pas de ceux qui veulent ou qui courent, mais de Dieu qui fait grâce. Et là, le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela est vrai pour les capacités intellectuelles. Quand nous savons que Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde, nous n'avons pas entré dans un système de comparaison. Pourquoi telle personne chante mieux que moi? Pourquoi c'est lui qui fait ceci? Voyez, dans une autre église, il y a des petites comparaisons, des petits conflits. Mais parce qu'on ne sait pas que Dieu accorde des dons volontairement à des gens, des talents à quelqu'un, c'est ce qu'il a reçu. Pourquoi je voudrais être comme un autre pasteur prêché comme lui? Quand j'ai pris mon chien, toujours j'en suis. Parce que, bon, on m'a expliqué scientifiquement que je produis beaucoup un excès de chaleur, je ne sais pas comment ça s'appelle, de mon chien. C'est naturel chez moi. Donc, si quelqu'un dit, quand Gaïa Blanc presse, il est en sueur, moi aussi, il faut que je presse pour que je sois en sueur. Enfin, c'est pour rire, caricature un petit peu. Pour dire que chacun a reçu de la part de Dieu un don particulier. Donc, l'élection est le résultat d'un choix volontaire et qui est basé non sur le mérite, mais sur la miséricorde de Dieu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, nous voyons la même chose également qui est dite. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. 1 Corinthiens 1, 27. Je lis maintenant. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Vous voyez le mot choisi? Dieu a choisi. Donc en clair, avant que je naisse, Dieu m'avait déjà choisi. Il m'avait déjà connu. Dans Psaume 139, vous voyez Psaume 139. Psaume 139. Si on comprend ça, on ne peut plus se comporter, on ne peut plus mener, on peut être inquiet, nous troublant, nous confusant. Non, 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 on va être vraiment dans une communion, non seulement d'amour avec Dieu, mais de confiance avec lui. On dit, Seigneur, je sais que tu sais tout. Psaume 139, verset 3, il y a quelques passages, verset 3. Voyez le même le verset 1 et 2, 3. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Alléluia. Avant que la pensée ne soit émise, tu la connais. Et ce n'est pas tout. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue que déjà Dieu. Éternel, tu la connaissais tout entièrement. Alléluia. La parole n'est pas encore sur mes lèvres. Dieu la connaît déjà. Vous voyez, savoir que Dieu me connaît. La connaissance parfaite de Dieu, la préscience de Dieu, met le chrétien ou le vrai de nouveau dans une situation de confiance. Pour dire qu'il n'y a rien qui le supprime. Il n'y a rien qui vient comme un hasard chez lui. Chez nous, c'est un hasard, nous les humains. Mais chez Dieu, ce n'est pas un hasard. Il a voulu, oui, il a laissé ainsi. Peut-être qu'un accident est prévu. Nous ne le savons pas du tout. Nous prions. Nous faisons confiance en Dieu. Seigneur, entre mes mains, j'abandonne tout. Il te fait confiance. Ma vie entre tes mains, il te fait confiance. Lui, il sait que ça va arriver. Mais si ça arrive, il nous a donné la capacité de supporter cela. Alléluia. Dieu ne permet jamais qu'une situation nous arrive qui soit au-dessus de nos forces. C'est écrit même dans la Bible, on en a parlé. Il dit, aucune situation qui nous est soumise, Dieu ne peut pas nous soumettre à des situations qui sont au-delà de nos forces. C'est pourquoi je vais dire aux uns aux autres, à ceux qui sont passés par les moments difficiles ou qui passent par les moments difficiles, sachez que ce que vous connaissez, si ce n'est pas été provoqué par votre propre faute, si ce n'est pas le résultat de vos propres péchés, si ce n'est pas le résultat de vos propres choix, parce qu'il y a des choix qu'on assume, des mauvais choix, mais que vraiment vous ne pouvez absolument rien que c'est arrivé, je reconnais que c'est difficile, mais faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur, faites-lui confiance. Il sait pourquoi il a permis cela. Faites-lui confiance parce qu'il dit, avant que cela arrive, il le connaissait déjà. Vous voyez, Dieu devait bâtir nos vies comme étant des témoignages. Je le répète encore. Savoir que Dieu nous a choisi. Et que ces événements qu'on va subir, alors qu'on n'est pas forcément responsable, il les maîtrise, il les sait, alors on peut lui faire confiance. Ce n'est pas très sûr. Allons dans Marc. Je vais vous montrer ça aussi. Le choix de Dieu, l'élection de Dieu, pour notre salut, mais aussi pour notre vie quotidienne, et des choses que Dieu a prévues, qu'il a su d'avance. Voyons dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Verset 35. Verset 41. Dieu sait les choses d'avance. Je vais te démontrer ça. Il le fait par miséricorde. Je lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, il amenait dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, une forte tempête, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Et il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Il fut saisi d'une grande crainte et se dit les uns aux autres, les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Quand même le vent et la tempête lui obéissent. Amen. Amen. Il y a cette histoire qui est arrivée. J'ai envie de démontrer que Dieu nous choisit d'avance. Les événements qui nous arrivent, il les connaît d'avance. Et ça doit nous amener à lui faire totalement confiance. Jésus était avec ses disciples, il a dit, passons à l'autre bord, c'est pas ça. Allons sur l'autre rive. Lui seul savait ce qui allait se passer. Il savait ce qui allait se passer. Et en pleine nuit,
au milieu donc de la mer, une tempête violente et forte commence à souffler de partout. Rappelez-vous le contexte. On a affaire à des disciples qui étaient la plupart des pêcheurs. Ils étaient pêcheurs professionnels de génération en génération. Jacques était pêcheur. Jean était pêcheur. André était pêcheur. Il y avait vraiment une bonne partie. Je pense même la moitié devait être des pêcheurs. Et quand on a buté à la pêche, on connaît les pêcheurs, on connaît le degré de vent, on sait plus ou moins. Mais ces pêcheurs professionnels nés de père, grand-mère pêcheur, ils se sont rendus compte que ce vent-là était un vent inhabituel. Alors quand on voit un pêcheur professionnel se mettre à crier et à pleurer, ça veut dire que le vent était trop fort. Ben, ils se disent, cette fois-ci, on est perdu. Mais vous voyez le contraste? Jésus, le Seigneur lui dormait. Avec les disciples, étaient complètement dans une situation difficile. Ils avaient peur. Et quand il s'est réveillé, tout tranquillement, il dit, mais le Seigneur, il est quand même méchant. Enfin, entre parenthèses, comment il voit ses disciples, mais l'eau remplir lui, comment il s'en va pour dormir? Mais parce qu'il leur a dit au début, passons de l'autre côté. Il ne leur a pas dit, allons mourir. Il faut dire, amen avec moi. Amen. Vous avez la révélation? Amen. Il ne leur a pas dit, allons mourir. Il a dit, passons de l'autre côté. Donc, lui, il savait qu'en ayant dit, passons de l'autre côté, la barque n'allait pas couler. Il faut dire, amen. Même si le vent était fort, puissant, la barque n'allait pas couler parce que lui, il a dit, passons de l'autre côté. Donc, le Seigneur, le vent se fatiguait, ou m'excuse du thème, le vent s'excitait pour rien. Il allait passer de l'autre côté. C'est pourquoi il dormait. Vous voyez, des fois, en pleine tempête, quand nous sommes en train de crier de partout, Dieu lui est tranquille. Tranquille. Pourquoi? Mais parce qu'il sait que l'épreuve ou ce qui arrive ne va pas nous couler. Sans nous effrayer. Ça va nous ébranler dans notre. Ça nous ébranler sérieusement. Mais on ne coulera pas. Et on passera. Et à la fin, ils ont dit, mais qui est celui-ci? Waouh, quelle révélation! Les disciples avaient Jésus-Christ. Mais ils n'ont cru en lui que de manière progressive. Ils ont cru en lui par degré. Au fur et à mesure que les épreuves se produisaient et que le Seigneur manifestait une grande puissance, ils croyaient en lui un peu plus. Quand Dieu permet, parce qu'il sait tout d'avance, qu'on subisse des situations terribles, difficiles dans notre foi, c'est parce qu'il veut nous amener à découvrir une facette de sa puissance, une facette de sa gloire, une facette de sa puissance, de son amour, de sa grâce. Quand les disciples ont réussi, ont vu sous leurs yeux la mer se calmer en deux temps, trois mouvements, et que la mer est devenue silencieuse, le vent s'est tu aussitôt, et que la barque est allée jusqu'à l'autre bord, ils ont dit, mais qui est celui-ci? Même le vent lui obéisse. Chers frères, chers sœurs, Dieu t'a choisi, il faut dire amen.
Amen.
Il t'a choisi. Ne dis pas, mais pourquoi est-ce que je suis né comme ça? Pourquoi ces situations m'arrivent? Non, il faut voir la révélation pour savoir que Dieu a permis cela parce qu'il le sait d'avance. Gloire à Dieu. Est-ce que ce que je dis est clair? Est-ce que c'est bon? Voyez, quand nous savons ça, que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, comme le dit David, Psaume 139, et dit qu'il savait les jours qui m'étaient fixés. Il les connaissait parfaitement. Maintenant, notre rôle, c'est de rester dans son plan. Parce que quand on quitte son plan, qu'on fait ce qu'on veut, là, carrément, on n'est plus dans son plan. On est livré à l'ennemi, on est livré à nous-mêmes. Mais tant qu'on reste dans sa vision, qu'on lui fait confiance, alors jusqu'au bout, sa gloire va se manifester. Sa gloire va se manifester. Et on peut dire, Dieu, tu es le Dieu fidèle, parce que tu m'as connu d'avance, tu m'as choisi. Tu m'as choisi dans ton amour, afin de manifester ta gloire. Alors, pourquoi Dieu nous choisit? Il nous choisit pour que son dessein parfait dans notre vie soit accompli. On a vu que Jésus a lui-même a choisi ses propres disciples. Dans Jean chapitre 13, verset 18. Jean 13, 18. Et on est presque vers la fin. Jean 13, 18. Je lis. Jésus lui-même a choisi ses propres disciples. Ce n'est pas de vous tous que je dis, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi, etc. etc. Le premier passage, il dit, ce n'est pas de vous tous que je le dis, je connais ceux que j'ai choisis. Chers frères, chers sœurs, estime-toi heureux, Estime-toi heureuse d'avoir été choisie par le Seigneur. Pense à tous tes parents, à tous tes amis qui ne connaissent pas pour l'instant Dieu, qui sont livrés à l'ennemi, qui marchent sans foi, sans espoir. Ce que je dis maintenant est prouvé par la science. Il est démontré que ceux qui ont des raisons de vivre ont plus de chances de guérir d'une maladie incurable que ceux qui n'ont pas de raison de vivre. Ceux qui ont une raison de vivre, ils ont plus de chances de dominer cette situation que ceux qui n'ont pas d'espoir. Chers frères, chers sœurs, la plus grande grâce, la plus grande bénédiction que Dieu fait à un homme, ce n'est pas d'abord avoir des voitures, ni des grandes maisons, des grands biens. C'est de connaître son fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce. C'est quelque chose d'exceptionnel. Des rois ont voulu voir ça, ont voulu avoir ça. Lisez la Bible. Des rois ont désiré voir ce jour. Pierre dit d'ailleurs que des prophètes, même Moïse n'a pas connu Jésus-Christ. Même Abraham, il a vu sous la forme de Melchizedek, mais n'a pas connu Christ dans sa gloire. Pensez à des hommes exceptionnels comme David, ils n'ont pas vu Jésus. Pensez à des hommes comme Élisée, ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas vu. Et quand Simon a attrapé l'enfant, j'ai dit dans ses bras, il a dit, Père, Maître, laisse partir ton serviteur parce que mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. C'est une grâce d'avoir connu le Fils de Dieu, de le rencontrer comme Seigneur Sauveur. Pour l'instant, ça paraît flou dans notre esprit. C'est comme voilé parce qu'on n'a pas toute la révélation du privilège. Mais quand le salut parfait sera manifesté, et comme dit le duc Paul, quand on va connaître Dieu dans sa gloire, on dit, mais Seigneur, mais je me suis lamenté pour 90 ans sur la terre, dans la galère, dans la misère, alors qu'il y avait quelque chose de parfait que tu me réservais. Quel privilège! Et quand on va voir les rois, les puissants du monde aller loin de Dieu, on va dire, mais tiens, qu'est-ce que j'étais privilégié? Chers frères, chers sœurs, le salut qu'on a acquis est un bien précieux. Et la Bible déclare comme les souffrances actuelles ne sauraient même, mais vraiment, remettre en cause le salut. C'est un privilège grand et glorieux. Être sauvé. Pensez à ces millions de personnes sans Dieu. Et pensez à ce que nous avons connu comme grâce et faveur. On a dit, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as choisi. Alléluia. Parce que tu m'as choisi. Ton nom est inscrit sur mon front. Ta main est sur moi. Tu me gardes. Tu connais les jours de ma vie. Aucun aspect de ma vie n'était étranger. Rien ne te surprend. Je dis, il n'y a pas de hasard. Du 1er au 31, il maîtrise parfaitement la situation. Quand même j'ai peur, je sais que le Seigneur est là, il est en contrôle. Et si ça arrive, il a voulu, il a permis. Et je sais que sa gloire va se manifester. Amen. Et en fin de compte, Dieu nous choisit. Je l'ai dit tantôt, mais je vais encore le répéter. Dieu nous choisit pour servir à sa gloire. Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le... Je reprends le passage. Verset 16, Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Dieu nous choisit pour faire quoi? Pour porter du fruit et que notre fruit puisse demeurer. Dans Actes chapitre 22, verset 14. On envoie la même pensée encore. Actes chapitre 2, verset 14. Chapitre 22, verset 14. On voit également la même pensée. Qu'on est choisi pour servir à sa gloire. Verset 14. Il dit, le Dieu de notre Père, de nos Pères, t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. On est destiné à connaître le juste. Le juste, c'est qui? C'est Jésus. Nous sommes destinés pour cela. Dieu nous a choisis pour que son plan soit accompli. Et le dernier passage est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ça sera le dernier. Éphésiens 2, 10. Comme c'est l'enseignement, je donne beaucoup de passages pour que tout ce que je dis soit illustré, soit... Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres ou les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je reprends. Car nous sommes son ouvrage. Dieu, nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je suis choisi, tu es choisi parce que Dieu veut que tu manifestes sa gloire. Comment Dieu va-t-il manifester sa gloire sur la terre? Ce ne sera pas à travers les anges, ce n'est pas à travers les animaux, c'est à travers des hommes et des femmes comme nous, comme vous. Manifester le règne. Et le cas, le Seigneur dit que ton règne vienne. Il a pu apprécier aussi, le règne de Dieu est déjà venu. Le règne de Dieu se trouve en nous. Et c'est à nous de le manifester. C'est un grand privilège. Une pensée qui m'a traversé, que je vais dire avant que je m'arrête. Jésus a dit quelque chose qui peut peut-être gêner quelques personnes. Jésus a dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais de tous les prophètes, depuis Abraham, qui était prophète, Jean-Baptiste est le seul prophète qui a vu Jésus. Il s'appelle Dieu. Et c'est lui qui l'a baptisé. Le Seigneur estime que quand la vue l'a connu, c'est plus grand que couper la mer Rouge en deux comme Moïse. C'est plus grand que faire tomber le feu du ciel comme Élie. C'est plus grand que le sujet des morts comme Élisée. C'est plus grand que toute autre chose. Vous allez connaître Jésus. Comme Jean-Baptiste l'a connu, le Seigneur dit c'est plus grand, les plus grands que tous les prophètes. Mais maintenant il précise ceci. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce qu'on a la révélation? Si Jean-Baptiste est plus grand que tous les autres prophètes, parce que Jean-Baptiste est le seul prophète qui a vu Jésus face à face, qui l'a touché, le Seigneur précise que le plus petit dans le royaume est plus grand que lui, parce que Jésus n'est pas mon Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fermé l'Ancien Testament. Parce que quand Jean-Baptiste mourait, Jésus était encore vivant. Donc il n'a pas connu les mérites du sang de Jésus-Christ. Or, un né de nouveau qui a cru en Christ a connu les mérites du sang de Christ. Il a connu la sanctification et la justification par le sang de Christ. Il a connu la révélation et il a connu le fait d'être rempli du Saint-Esprit. C'est des trésors incroyables. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour cela?
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.